Écoutez, je crois que ce qui a été. Ce qui a été enseigné ici dans le langage du Rav Kook, je crois qu'on ne s'était pas concerté avant, mais je crois qu'au moins la grande majorité de ces thèmes, nous allons les retrouver à leur source, c'est-à-dire dans un texte talmudique. Du traité de Ta'anit. Vous savez que le traité de Ta'anit s'occupe de ce qui se passe lorsque lorsqu'il y a Atsirat Geshamim, lorsqu'il y a sécheresse en Eretz Israël. De façon plus générale, lorsqu'il y a des tsarot, lorsqu'il y a des problèmes, mais l'Atsirat Geshamim étant justement considéré comme un problème central, un prototype des problèmes, et on assiste dans ces textes que certains d'entre vous connaissent au moins en partie, ce personnage tout à fait exceptionnel, et donc de Choni Ameagel. Et donc je ne parlerai pas du premier texte, enfin je vais le rappeler très succinctement, qui est très connu, mais je parlerai justement des autres textes qui sont un petit peu moins connus. Et on va, j'ai volontairement pas distribué la photocopie parce que sinon ça nous prendrait beaucoup de temps d'éplucher mot à mot et on n'a pas ce temps, mais je voudrais qu'on réfléchisse ensemble sur les thèmes qui vont vriller les différents textes de cette Gemara. Soit dit en passant, les quatre textes concernant ce personnage étonnant de Choni Ameagel sont sur la même page de la Gemara, alors que apparemment ce sont des épisodes différents de la vie de ce tzaddik. Comme dit Rashi, Adam Gadol. Et j'insiste là-dessus tout de suite parce que parfois on pourrait avoir l'impression fausse qu'il ne s'agit pas d'un Adam Gadol, comme on va le voir tout de suite. Alors j'insiste tout de suite en disant qu'il s'agit du juste de la génération. Mais il y a plusieurs justes dans la génération. Dans le texte que je vais rappeler tout de suite, il y en a un autre qui s'appelle Shimon ben Shattach. Shimon ben Shattach, lui, fait partie de cette génération qu'on appelle les Zougot, les couples, qui ont dirigé le peuple d'Israël pendant 5 générations qui précèdent la période dite de la Mishnah à proprement parler. Ils sont aussi considérés comme des Tanaïm, des sages de la Mishnah, mais ce sont 5 générations où le peuple d'Israël est dirigé par un Asbestim et par un Rosh HaSanhedrin. Parfois on dit que le Rosh HaSanhedrin s'occupe plus de la direction politique au sens large du mot, et le Asbestim s'occupe plus de la direction religieuse au sens large du mot. C'est en général vrai, mais pas toujours. En tout cas, ils sont des couples qui mutuellement s'occupe de la direction du vote. Alors Shimon ben Shattach est à ce moment-là le Rosh HaSanhedrin, et je voudrais rappeler d'abord le premier texte, mais très succinctement parce que, encore une fois, il est très connu. On parle donc d'une période où la majorité du mois de Hadar est déjà passée. On est maintenant aujourd'hui juste après Tu Bishvat. Imaginez, dans un mois et demi, et il n'y a pas encore de pluie du tout qui sont tombés en Eretz Israël. La majorité du mois de Hadar, c'est déjà pratiquement la fin de la saison des pluies. Et donc, le peuple est extrêmement inquiet. Il y a dans la Mishnah de Ta'anit toute une série de jeûnes que l'on doit faire. D'abord des jeûnes Ta'anit Yechidim, les jeûnes que font les grands de la génération, pour ne pas les Atriyah et Tatsivo, pour ne pas empêcher le peuple en général d'aller vaquer à ses occupations, travailler, etc. Mais si le temps avance et la pluie n'a toujours pas lieu, alors on réunit une fois, deux fois, trois fois le peuple tout entier dans des journées particulières, le lundi, le jeudi, le lundi. Et finalement, donc toute une série de 13, etc., jeunes, les uns après les autres. Et puis on en arrive à une situation ici où véritablement le mois de Hadar est déjà pratiquement terminé, et toujours pas de pluie. Alors, très succinctement, le peuple est allé trouver Choni Ameagel, Elle lui a demandé de prier. Vous connaissez ce texte un petit peu, n'est-ce pas? Et il est allé lui demander de prier pour eux. Et alors voilà qu'il a prié une fois, deux fois, trois fois. Mais à chaque fois, ce n'est pas la pluie que l'on attend. Vous avez raison de me faire ce signe-là. Dès le début, on voit que Roni dès le début, on voit que Roni trace un cercle dans la terre, dans le sable, se met dedans et, invective le ciel en disant « Je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que tu ne fasses pas tomber la pluie. » Alors, la pluie au début ne tombe pas, ensuite elle tombe avec des pipines, des gouttelettes. Ensuite, il se remet dans le cercle, de nouveau, il parle de cette façon qui est problématique, et puis finalement, la pluie va tomber alors des zaraf, c'est-à-dire avec violence, il se remet de nouveau dans le cercle en disant, mais c'est pas comme ça que j'ai demandé une pluie bénéfique, etc. Et finalement, Dieu accepte de montrer sa grâce et envoie de la pluie bienfaisante. À ce moment-là, et c'est ça qui m'intéresse pour le sujet de ce soir, bien qu'il y a énormément à dire déjà sur la première partie, le premier texte se termine alors d'une drôle de façon. La pluie tombe, bienfaisante. Alors le peuple commence à trouver que ça va, ça suffit. Et il monte sur la colline du temple pour se réfugier un petit peu de l'inondation qui commence maintenant à se... Et il demande à Roni, écoute, maintenant on sait très bien, tu as prié et on a eu de la pluie, qu'on a fait, maintenant prie pour que ça s'arrête. Il a là d'ailleurs un principe, je ne sais pas s'il y avait un cours par ailleurs sur la Tefila, mais un principe très important des clés de la Tefila. Il dit Mekoublani. Vous savez, la Tefila, c'est pour les Mekoublani, comme disait Manitou. Eh bien, j'ai reçu de mes maîtres que. On ne peut pas prier pour un trop-plein. Alors pourquoi on veut prier? On veut prier pour un manque. Mais c'est un principe très, très, c'est pas le sujet, mais c'est très fondamental dans la Tefila. On veut prier pour un manque, mais pas pour un trop-plein, alors que parfois un trop-plein est aussi une façon de manque. Kolamosif, Gorea, celui qui ajoute retranche. En tout cas, quoi qu'il en soit, et je vais me tenir à mon sujet de ce soir. Ce qui se passe, c'est que finalement, il va prier à nouveau quand même. Dieu va immédiatement, un mot qui m'intéresse beaucoup, Miyad, Nashva Ruach, immédiatement. C'est curieux d'ailleurs, parce qu'après toutes les pilotes qu'il a fait, c'est pas vraiment immédiatement. Mais enfin, immédiatement, le vent va souffler, les nuages vont se dissiper, et le soleil va luire, et finalement, écoutez bien, comme ça se termine le premier paragraphe, le peuple, Yatsu Ha'am Lashadot, de Lévi-Oulahem, Knuzim ou Pitriot. Le peuple va dans les champs, qu'est-ce qu'on fait après la pluie? Cueillir des champignons. Lorsque j'ai lu et relu et re-relu cette Gemara, qui est une Gemara qui pose beaucoup de questions, mais on peut essayer de trouver les réponses dans les commentateurs, mais alors là, j'ai rien compris, parce que qu'est-ce que ça peut... C'est quand même pas un roman historique. Alors, qu'est-ce que ça peut nous faire qu'après toute cette histoire qui est pleine de sens, qui est chargée de questions, de réponses qu'il faudrait étudier, on vient nous préciser, tu sais, le peuple est allé cueillir les champignons. Tmehim, en hébreu moderne, on peut dire les truffes, je ne sais pas exactement si c'est ça le sens. En tout cas, des genres de champignons différents, quoi. Voilà, après la pluie, non? Bon, fin du premier épisode. À ce moment-là, il y a un deuxième épisode. Le deuxième épisode est tout entier concentré autour de la personnalité. Le premier était sur Roni Amiagel, Roni le traceur de cercle. Quoi, parce qu'une fois, il a tracé un cercle dans sa vie. Hein? On l'appelait pour toutes les générations. C'est curieux, non? Hein? Le deuxième épisode, lui, va se concentrer, il est beaucoup plus court, et il se concentre entièrement autour d'un personnage qui est beaucoup plus, classique, hein. Il s'appelle Shimon ben Shattar, dont on parlait tout à l'heure. Imaginez que d'un côté, il y a ce Roni Amiagel, le tzaddik de la génération qu'on va chercher lorsqu'on veut qu'il prie, qu'il intercède pour nous, Et d'un autre côté, il y a le Nasir Sanhedrin, il faut comprendre. Le Nasir Sanhedrin, lui, on n'a pas besoin d'aller le chercher. Je veux dire, il a des fonctions officielles de direction du peuple à ces périodes extrêmement difficiles. Et donc, c'est très curieux de voir ce que Shimon ben Shattar, alors que je reviens à Nadel, comment dire, je cherche l'équivalent en français, c'est un ex. C'est un. Il y a un mot que j'ai oublié. Un outsider. Enfin, c'est pas gentil de dire ça. C'est le tzadik, mais vous comprenez, il est en dehors de tous les systèmes, il est en dehors, il n'a pas de responsabilité. Alors que Shimon ben Shattar, il a toute la responsabilité. Alors Shimon ben Shattar envoie à Roni Améagel une missive très étonnante. Et il lui dit, écoute, si tu n'étais pas Roni, Rashi dit Adam Gadol, un grand homme, alors je gozrenia les ranidouilles, j'aurais décrété que tu dois être retranché du peuple d'Israël. Comment ça, autre chose? Qu'il a fait? Il a amené la pluie finalement. Avec abondance. Bon, évidemment, ça n'a pas été du jour au lendemain, mais comment ça, retranché? Il dit l'exercice. On ne peut pas imaginer que le peuple va apprendre que c'est comme ça qu'il faut faire. Toi, c'est un cas particulier. On sait, tu es hors concours. Tu es que ben se mitraté, c'est la Bible, je ne rentre pas dans toutes les définitions. Tu es comme un familier dans la maison de Dieu, comme un fils qui dit à son père, amène-moi de l'eau chaude, il va chercher de l'eau chaude pour me laver, il va chercher de l'eau chaude, il veut bouillir, etc. Il arrive, non, finalement, de l'eau froide, alors il faut changer l'oreille, il dit non, finalement, je voudrais des pastèques. Non, alors il y a des pastèques au marché, non, finalement, je voudrais des noix, non. Il disait, c'est caprice. Ça, c'est Roni Améagel qui est d'une telle intimité avec Dieu. Mais d'un autre côté, le personnage de Shimon ben Shattar, qui est tellement plein de la responsabilité publique sur le tibour d'Israël, lui envoie une missive, lui dit « Si tu ne t'appelais pas Roni, j'aurais décrété contre toi d'être retranché. » D'ailleurs, on se demande qu'est-ce qu'il veut, parce que finalement, il ne va pas décréter de le retrancher. Alors pourquoi il lui envoie cette missive? Vous comprenez la question? Et qu'est-ce que ça veut dire? Si tu n'étais pas Roni, mais maintenant il est Roni. Alors pourquoi il lui envoie une missive pareille? Comment? Voilà, pour pas que ça serve d'exemple. Car lui, Shimon ben Shattar, il a une responsabilité, pas seulement par rapport au peuple dont il a la responsabilité, à la génération dont il a la responsabilité, mais par rapport à toutes les générations, d'une certaine façon, qui vont apprendre de cela comment il faut faire. Alors il lui dit, c'est pas une façon de faire. Alors qu'est-ce que c'est la façon de faire? Il y a encore deux petits textes. Dans le troisième petit texte, qui est aussi relativement plus connu par certains. Non, pardon, le troisième n'est pas connu, le quatrième est connu. Le troisième est au nom de Rabbi Yochanan, le grand sage des Rêves d'Israël, qui a dit « Kol yamav shelotot tzadik ayam tzer al mitrage ». Toute la vie, ce tzadik-là, Roni Améagel, souffrait de ne pas comprendre un verset des psaumes. Alors souvent, quand je cite ce texte, je me dis « C'est là qu'on se sent petit. Hein ». De quoi nous on souffre toute la vie? Alors, Roni Améagel, il souffrait toute sa vie de ne pas comprendre un verset des psaumes. Eh bien, elle va y aller, nous, comme on dit. Hein? Seulement. Hein? Alors, quel était ce pasouk? Alors là, ça devient de plus en plus étonnant, parce que finalement, ce pasouk, tout le monde le connaît, tout le monde le comprend. Shirama, l'autre, je sais. Le chou va faire notre chou va de Sion. Aïe, nous, qui est le sujet du rap. Lorsque Shirama Alot, c'est le chant de la Aliyah. Alors, Shirama Alot, c'est marqué quantique des degrés, oui, évidemment. Mais Rashi nous fait une allusion d'ailleurs que c'est le chant de la Aliyah. Shirama Alot, Beshuv Hashem et Shiva Sion, lorsque Hashem va ramener le retour de Sion, à Yukholi, voilà qu'on a découvert qu'on était comme des rêveurs. On a été pendant toute cette période. De 2000 ans. Enfin, à l'époque, c'est 70 ans. À l'époque, c'est 70 ans, parce qu'on est juste après le retour, n'est-ce pas? Panse Knesset Agdola, la période du retour d'exil de 70 ans en Babylonie, devenue la Perse, qui deviendra la Perse, donc, et on est revenu avec Zerubbabel, avec Nehemia, avec Ezra, Et bien après la période des Anshei Knesset Agdola et surtout des Zougot, dont Shimon ben Shattar. Alors, il dit, Rabbi Yochanan, toute la vie, ce juste souffrait de ne pas comprendre ce verset. Qu'est-ce qu'il ne comprenait pas dans ce verset ? Shirama, l'autre, Beshuv Hashem et Tilatem Aïnou Karolmou. Voilà, on a compris. Lorsque tu ramèneras le retour à Sion, virgule, nous avons compris que nous étions comme des rêveurs. Alors, ce que Rabbi Yochanan ajoute, c'est que est-il possible de rêver pendant 70 ans ? On dirait pendant 2000 ans. C'est possible de rêver pendant 2000 ans ? C'est possible, la preuve. Enfin, nous, on n'a pas de mérite, évidemment. On est après à la sortie de ce rêve. Mais qu'est-ce que c'est tellement. Quoi ? C'est ça ? C'est de ça que Roni, de ça Roni a souffert toute sa vie. Comment on peut rêver pendant 70 ans? Il n'y avait pas autre chose qui lui posait problème. Alors, encore une fois, on va essayer après de synthétiser un petit peu toutes ces questions, et en tout cas, non pas d'y répondre une par une, mais de trouver une espèce d'axe central avec l'aide de Dieu. Il y a un dernier texte qui lui est aussi un petit peu plus connu. Et là, on arrive au Charoub, Charoub. Vous savez d'ailleurs que Charoub, en hébreu, ça vient du mot. C'est pas seulement le caroubier qu'on a mangé avant-hier. Là. Vous avez mangé du caroubier? Ah non. Ah non, c'est si on mange pas tout le monde, pas même qu'on mange du Charoub, comment ça? Quoi? Et enfin, c'est... Attendez, j'explique mon... Pourquoi est-ce que si on ne mange pas à tout bichat, on n'en mange pas toute l'année? Pourquoi? Vous avez commencé le caroube, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de vous expliquer. À quoi ça ressemble? Une banane plate, sèche, qui ne paye pas de mine, etc. Contrairement aux fruits de Adam Harrison, qui était tellement beau à voir, qui était tellement agréable à percevoir. Ça, ça a vraiment... Mais alors, rien. Raoum, quoi, Khourban, détruit, quoi. Hein, Khourban, destruction. C'est un fruit, je ne sais pas comment vous dire. On va demander à un médecin. Demander à un médecin, comme vous le savez, dans le Raoum, c'est pas seulement parce que Rabbi Shimon Bar Yochai en a vécu sur du Charoub pendant 13 ans avec Rabbi Elazar, son fils, il y a tout dedans. Hein? Toutes les diètes diététiques sont avec la base de Charoub. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez ce texte-là où notre Roni Améadiel se promène et rencontre un juif dont on ne connaît même pas le nom. Monsieur juif, monsieur de Cohen, monsieur tout le monde. Et il est en train de planter un caroubier. Vous connaissez ça? Et il lui demande, mais dis-moi, combien de temps ça prend de donner des fruits? Alors il dit, ça peut prendre jusqu'à 70 ans. Il dit, quoi? Chroni Améagiel Adam Gatol. Mais là, il tombe à la renverse. Et il dit, mais enfin, est-ce que... Amar le petit alar de Chaïs, tu dis, est-ce que c'est évident pour toi que tu vas vivre 70 ans? Pourquoi il lui demande ça? C'est-à-dire que je plante maintenant, je dois consommer. Alors il lui a dit, ma pitonne, moi de la même façon que lorsque je suis venu au monde, j'ai trouvé un arbre que mon grand-père avait planté pour moi, moi je plante pour mes petits-enfants, vous connaissez ça. Ce qui m'intéresse, c'est le lien entre tous ces passages. Certains épisodes sont connus, d'autres moins, mais le lien entre tous. Alors ça l'a beaucoup, beaucoup étonné. Il ne s'attendait absolument pas, Roni, à cette réponse. Et il faudra nous demander pourquoi. Alors il s'est assis de surprise, il a mangé un sandwich, et puis après le sandwich vient la sieste, et il a dormi pendant 70 ans. Dieu l'a recouvert, enfin il y a eu un miracle qui s'est produit pour qu'il soit protégé pendant ses 70 ans, et puis il s'est réveillé. Et lorsqu'il s'est réveillé, là ça a commencé à mal se passer. Alors je résume, il est arrivé chez lui, Et il a demandé est-ce que le fils de Chroni est là. Alors, lorsqu'il s'est réveillé, il a vu qu'il y avait des ânons qui étaient nés, de l'âne qui était à côté de lui lorsqu'il s'est endormi. Et alors, il a fait le compte qu'il a dû dormir pendant très 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 longtemps. Il est arrivé chez lui à la maison, est-ce que le fils de Chroni est là? On a dit non, le fils n'est plus là, mais le petit-fils est là. Alors il a dit, mais c'est moi. On ne l'a pas reconnu. Pourquoi? C'est parti d'un autre cercle. Alors il a commencé à être très pris de panique. Il est allé au Beit HaMidrash, là au moins on se sent chez soi, à la yeshiva. Et il a entendu derrière la porte les sages dire, ah, cette souvia, ce passage de la Gemara, si Chroni était là, il nous aurait déjà résolu toutes les difficultés, lui, etc. Alors il est rentré, il a dit, mais c'est moi. Non, à part que nous, l'aurait-nous, c'est-à-dire on ne l'a pas cru. C'est encore pire qu'on ne l'a pas reconnu, c'est on ne l'a pas cru. Et Mouna. La fin de l'histoire est très triste. Hein, c'est que, alors, son esprit a faibli, Khalsa Daate, et il a demandé miséricorde à Dieu, et il est mort. Et la morale de cette histoire, qui est donnée ici au nom de Rava, de la morale Rava, c'est une morale très importante. C'est ce que disent les gens. Haïnou de Amre Inche, O Chavruta, O Mituta. Ou bien Chavruta. Alors, vous savez, Chavruta, ça veut dire un compagnon d'études, comment ils disent là, dans les yeshivot, machin, qui parle français, un binôme. C'est très bien, mais Chavruta, ça veut dire Chavel Chibour, ça veut dire où le lien, c'est pas seulement une Chavruta au sens yeshivite, c'est le Chibour. Ou bien on a un lien, ou bien c'est la mort. Emouna, c'est un lien. L'origine, on l'a pas cru. Pour croire, il faut un lien. Vous comprenez? La Emouna, c'est donner confiance dans ce en quoi je crois. Comment je peux avoir confiance? C'est le lien le plus profond entre moi et celui ou ce en quoi je crois. C'est donner toute ma confiance. L'origine. C'est pour ça qu'il s'appelle Améagel. Pas parce qu'une fois dans sa vie, il a tracé un cercle dans le sable, parce que c'est que. Alors, il faut être très prudent, parce que c'est Adam Gadol, c'est tzadik. Les mots ne manquent pas, les épithètes par rapport. C'est le grand de la génération. Peut-être plus encore, sûrement plus encore que Simon Ben Sattar. La preuve, on n'est pas allé chercher Simon Ben Sattar pour prier pour la pluie. Pour Chroni Améadiel, c'est très beau, le grand-père, le petit-fils, c'est très beau de 70 ans de rêve, 2000 ans de rêve, bon mais, par ça, yes ou aim, y a ou y a pas, y a pas. Akadosh Baruch Hu, tu veux me donner ou tu veux pas me donner? Moi je bougerai pas d'ici jusqu'à ce que tu me donnes, tu comprends? On peut pas. Essayer de se fonder sur, je ne sais pas moi, les enseignements du Rav Kook. Ça y est, ça commence à se mettre un peu en place. Le petit juif, dont on ne sait pas le nom, son emblème, c'est le Charouf. Alors évidemment, il suppose qu'il plantait d'autres arbres fruitiers que le caroubier. Hein. Mais l'histoire, le test, là, le Talmud, va retenir le charouf. Parce que le charouf, c'est la chaîne des générations. Le charouf, c'est... Alors le présent, maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Yes ou N, pour le petit juif, monsieur tout le monde du peuple juif. Il y a ou il n'y a pas le présent? C'est une question d'ailleurs délicate. Je ne veux pas maintenant fermer la réflexion. Je voudrais l'ouvrir simplement. Dans le Chavruta, il y a au moins, et c'est ce que dit le Rav Kook dans le adage, le proverbe qu'il donne sur le mois de Shvat. Alors il parle de deux choses là-bas. il parle de la chaîne de génération. Il se base sans aucun doute sur ce texte et d'autres, de la chaîne de génération, de la même façon que mon grand-père, alors mon petit-fils. C'est-à-dire, moi je ne suis rien, sinon par le lien que j'établis entre le grand-père et le petit-fils. Moi-même, moi je ne suis rien du tout. Moi, dans un cercle, zéro. D'ailleurs, curieux. Zéro. Mais, j'avais même enseigné. Par contre, si je suis le chaînon qui fait passer le grand-père au petit-fils ou l'arrière-grand-père, alors je suis tout. Alors je suis toute la chaîne tout entière. Ça, c'est ce qu'il y a dans le Kharouv. Le Kharouv qui, encore une fois, est signe d'éternité. Présent, vivre sur du Kharouv, je ne sais pas si vous voyez le. Hein, mais ça veut vraiment dire qu'il y a l'essentiel. Alors qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Ben, il n'y a pas tout le superflu. C'est ça, finalement. Alors, la deuxième chose dont parle Rav Kook dans la base du mois de Shvat, c'est Hishtapkout de Mouat. Je me suis rendu compte de ça, justement, cette semaine. On a deux mains. C'est du luxe, je ne sais pas comment vous dire. On peut presque tout faire avec lui. Le Kharouv, il n'a rien pour lui. Rien, ni beau, ni bon. Bon, c'est un peu sucré, tu sais, dans une cuillère de glucose, je ne sais pas. C'est ni attirant, ni. Mais il y a l'essentiel. Ça, c'est Eretz Israël. Eretz Israël, à la suite de ce qui a été dit dans le cours précédent, elle est, comme ça a été défini, parce qu'il n'y a rien de superflu, mais il y a tout l'essentiel. Alors, je n'ai pas dit, comme on disait Manitou, je n'ai pas dit que en route cela arrête. Allez, c'est pas réciproque, non ? Hein ? Vous croyez comme ça qu'il n'y a que les superflus et pas des sentiers ? Alors, si vous croyez, tant mieux. Mais, c'est vrai, les gens, ils arrivent ici, ils se dépouillent. C'est vrai ? D'ailleurs. Oui, non, je sais que vous pensez à la même chose. Si vous saviez le nombre de garçons, de filles, enfin, depuis des années, dans les programmes que nous avons, qui, le premier mois de leur arrivée en Israël, on leur vole l'argent qu'ils ont amené, ils sont bouleversés. Il nous faut après une semaine à la petite cuillère pour les aider à. Vous verrez un peu ce qu'il leur a quoi, je suis venu en Eretz Israël, à Jérusalem, à Yeshivah. C'est vrai, c'est dramatique. Ils voient très bien toujours au début, surtout ne prenez pas, ils sont là, on a un coffre et tout, mais à chaque fois, il y en a au moins un. Ça fait partie, peut-être, du dépouillement. Alors je ne dis pas a priori, je ne justifie rien. Il y a un dépouillement. Le Kharouv. Allez, une petite anecdote, il me reste encore 3 minutes. Quelle heure il est ? On a encore 3 minutes ? 5 minutes ? 10 minutes ? Un quart d'heure ? Combien ? Combien ? Ça va aller. Ah, bien, on est encore quelques. Alors, je vous raconte une petite histoire. Une fois, ce texte-là, je l'ai enseigné il y a beaucoup d'années, une fois en Guadeloupe. Une semaine, on a donné des cours là-bas. Vous savez, vous connaissez un petit peu, il y a une belle synagogue, style colonial, avec des colonnes blanches comme ça. Enfin, style colonial, quoi. Alors, vous savez, là-bas, c'est un pays dans lequel la chose qui frappe le plus d'abord, c'est les fruits. Les fruits exotiques. Mais c'est incroyable. On n'arrive pas à retenir les noms. Et les jus de fruits, je ne dis pas du matin au soir, quoi. C'est extraordinaire. C'est très, très coloré. C'est très. Bon, alors le rabbin m'avait demandé, c'est juste la période de tout l'histoire, imaginez. Alors, on avait prévu pour le soir une grande table pour toute la communauté réunie, table de fruits essentiellement exotiques. Et j'avais dit d'accord, mais je voudrais qu'on mette une nappe dessus, que personne ne touche. On va d'abord faire un petit chinois, un petit bar Torah, et après, ils pourront se servir. J'ai fait là-dessus sur le caroubier. Après, on va passer aux champignons, n'oubliez pas. Alors, j'ai parlé du caroubier, du caroub. Et au moment où j'ai terminé de parler du fruit des restes d'Israël, qui qui ressemble en rien aux fruits, mais alors c'est les antipodes avec les fruits de Guadeloupe, hein. Eh bien, j'ai dit, on va tout de suite enlever la nappe pour que vous puissiez vous déguster, mais moi, j'ai amené un petit peu quelque chose des restes d'Israël. C'est bien, ça pèse pas lourd en plus. De toute façon, on ne peut pas en manger plus que 3 cm carrés. J'ai amené mon charouf, 1,5 kg de charouf des restes d'Israël. Eh bien, vous ne croirez pas, mais les gens se sont battus pour avoir un peu de charouf des restes d'Israël. Et pas de goyave. Bon. Le champignon, c'est le contraire. Le champignon après la pluie, tic tac. Hein ? N'est-ce pas ? C'est le contraire du charouf. Le charouf, il veut mettre 70 ans. Le champignon, vous savez que c'est même pas une fémar, une plante. Hein ? C'est qu'on dit que c'est la colonie du charouf. Hein ? C'est une, quoi, une moisissure ? Non, une moisissure. Hein ? Il y a peut-être. C'est comme ça, au point de vue. Oui ? Hein ? Quoi ? Ça colle. Alors. Parce que la différence est la suivante. Vous savez que Tsemar, c'est le nom du matière, Bassar de Sora. Tsemar, hein, est Avdi Tsemar dans Yisraïaou. Hein, et Tsemar David ne ira pas finir. Parce qu'une plante, ça prend beaucoup de temps. Il faut du temps de maturation. C'est le charouf, une plante. C'est le kivu, ça prend un temps nécessaire. Alors que le champignon, après la pluie. Et c'est ça qui a marqué. Ce que toi, Chronique, tu es venu me demander en te mettant dans un cercle, en demandant ici, maintenant. Alors, il y a encore une fois, et je ne voudrais pas être caricatural, ça Chronique Adam Gedol. L'obégovainain, il faut faire très attention. Mais d'un autre côté, alors d'un côté, Chronique veut nous enseigner quoi ? Il veut nous enseigner que. Alors quoi, le présent n'a aucune importance pour vous, les Kouknikim, là, les élèves du Rav Kouk. Bien sûr que le présent a une très grande importance, mais c'est un présent qui est guidé par le passé et guidé par l'avenir. Alors le présent prend toute son importance. Si c'est un présent dans un cercle, alors voilà ce qui se passe. Alors c'est un champignon, c'est pas un caroubier qui va naître de là. D'accord ? Si c'est un présent, mais sans cercle, un présent qui est le fruit, c'est le cas de le dire, du passé et surtout du futur au présent. Comment construire le futur au présent ? Comment je plante aujourd'hui pour mes petits-enfants, car mes grands-parents ont planté pour moi ? Ça, à ce moment-là, c'est un caroubier qui va sortir et pas un champignon. Voilà, on pourrait continuer, hein. Il y a beaucoup de choses encore dans ce texte. Par exemple, le fait que Shira Ma'alot de Shuv Hashem et Sivation Aynu Kecholim. Donc, qu'est-ce qui le gêne ? Pourquoi il souffrait tellement, à votre avis, Chroni Améadel ? Toute sa vie, il souffrait de ne pas comprendre qu'est-ce qu'il y a à comprendre. Qui a compris qu'est-ce qu'il y a à comprendre ? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans ce verset ? Lorsque Hashem ramènera le retour à Sion, alors on se rend compte qu'on était comme des rêveurs. Et Rabbi Yochanan dit, qu'est-ce qu'il avait de difficile ? Comment on peut rêver pendant 70 ans ? Ben, c'est le même thème. Comment on peut rêver pendant 2000 ans ? C'est le même thème. Enfin, soyez un peu réaliste, nous dit Chroni. Vous vous perdez dans des rêveries. Soit dit en passant, Haïnou et Chroni, il y a deux manières de traduire. Nous étions, ça c'est la façon ordinaire, on découvre que même maintenant on est des rêveurs. Vous savez qu'il y a des gens qui sont encore des rêveurs au moment où ça se passe dans le présent. Alors ils continuent à rêver. Alors ça c'est le côté c'est à l'envers. Hein? Il y en a qui sont tellement rêveurs que même lorsque la chose, le rêve se réalise, alors il continue à rêver. Chronique, c'est le contraire. Chronique, lui, dit le rêve, je comprends pas pourquoi on rêve. C'est la fonction du rêve. C'est la fonction du rêve. Pourquoi on rêve ? Vous savez qu'il y a des gens qu'on a empêchés. Vous savez que... Hein ? Pour vivre. Bien fait. Hein ? Vous savez qu'il y a des gens que, dans des laboratoires spécialisés, on les a laissés dormir autant qu'ils veulent, mais c'est que quand on rêve, alors les yeux, on peut mesurer que l'homme commence à rêver. Alors on les a empêchés de les réveiller quand ils commençaient à rêver. Au bout de 36 heures, ils sont devenus fous. Et on a arrêté l'expérience. Le rêve est nécessaire pour vivre. Pourquoi ? Parce que c'est la raison de vivre. Si on est dans la réalité sans rêve, excluons le rêve, alors on peut devenir fou. Enfin, la réalité... Alors d'un autre côté, quoi, on est un peuple de rêveurs. C'est vrai qu'on est un peuple que tous les grands personnages de ses origines, soit ont rêvé, en général c'est pas trop... Alors, ça s'est pas très bien passé avec Jacob, c'est moins bien passé avec Yosef. Alors Yosef, quand il a vu que ça ne se passait pas trop bien, il a commencé à interpréter les rêves des autres. Et c'est devenu d'ailleurs une profession proprement juive d'interpréter les rêves. Hein. Mais malgré tout, c'est cette exigence du peuple juif qu'au-delà de la réalité, il y a autre chose. Alors d'un autre côté, au-delà de la réalité, il y a autre chose, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le présent, il prend sa source dans le futur, comme on disait tout à l'heure, en langage philosophique, ça, un mot savant s'appelle téléologie. Hein? Le présent est déterminé par le futur. Mais finalement, c'est de ça qu'il s'agit, c'est que le rêve vient nourrir la réalité. Alors il y a ici deux dangers, par là on va terminer. Premier danger, c'est celui de Roni Améadiel, c'est de dire, le rêve c'est très beau, mais en quoi ça concerne la réalité ? Il y a ou il n'y a pas ? Et il faut entendre quand même, malgré tout ce qu'on vient de dire, la parole de sagesse de cet Adam Gadol qui vient et qui nous dit un rêve qui ne se réalise pas, alors c'était pas la peine de rêver. D'un autre côté, de l'autre côté, il y a le danger de dire de celui qui est dans une telle rêverie romantique. Ça s'appelle par exemple sioniste. Vous savez, le sionisme romantique, Eretz Israël est tellement belle en rêve que lorsqu'on vient la rencontrer en réalité, on dit c'est pas ça, je reste dans mon rêve. Autre version, la jeune fille est tellement belle en rêve, hein? Elle n'a aucun défaut en rêve. Lorsque j'ai bien rencontré la 354e jeune fille de ton nouveau jeune Sidour, elle a quand même un tout petit peu les oreilles décollées, je suis désolé. Alors on ne se marie pas. Alors il y a les deux dangers. Alors bien sûr que le petit juif qui n'a pas de nom, monsieur tout le monde du peuple juif, c'est lui qui finalement nous ouvre la porte du caroubier. Hein, pas trop simple, hein, vous y avez une pensée. Hein. Et il nous dit, faites attention aux champignons, parce qu'il y en a qui sont vénéneux. Bon, enfin, peut-être. Voilà.